Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h45, Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Alain Juppé.
Bonjour Alain Juppé.
Bonjour.
Merci donc d'être avec nous dans ce studio, 8h20 tout à l'heure avec les auditeurs. Le ministre Alain Vidalis a été affirmatif hier soir sur RTL. L'usine Alstom de Belfort ne va pas fermer malgré l'annonce de la direction. Le gouvernement peut sauver le site ?
On va voir les décisions qu'il annonce. Ce qui est invraisemblable, c'est qu'il a l'air de découvrir le problème comme ça, brutalement, après l'annonce qui a été faite.
Enfin, vous n'y croyez pas ?
L'État est actionnaire à 20%, donc il a au moins accès à l'information. Il est aussi donneur d'ordre. C'est lui qui incite la SNCF à passer ses commandes. Alors, il ne s'agit pas d'imposer l'achat de n'importe quoi à la SNCF, mais enfin, on peut orienter les choses. Donc, il avait des moyens d'action. Et puis, tout d'un coup, on découvre les choses. Je signale aussi qu'il y a des entreprises où, grâce au dialogue social, on arrive à trouver des solutions. Michelin a sauvé 2 sites industriels grâce à un accord sur la durée du travail. Donc il ne faut pas tout d'un coup se réveiller en se disant il faut faire quelque chose. Je voudrais quand même poser une question. Que faisait le ministre de l'économie pendant ce temps-là ? Il vient de quitter son poste. Il est probable qu'il consacrait plus de temps à sa petite start-up politique qu'à l'industrie française.
Il affirme découvrir la situation. Donc comme le gouvernement, c'est inquiétant ?
C'est très très inquiétant, je le répète, quand on est actionnaire, on siège au conseil d'administration, au minimum. Et quand on est ministre de l'économie, on peut convoquer les dirigeants des entreprises dans lesquelles on est actionnaire pour leur demander ce qui se passe.
Alors, on est
informé.
On savait
en réalité que la boîte n'était pas en bonne forme.
Effectivement, avec 20% prêtés par Bouygues, on est informé, on n'a pas forcément la capacité de peser néanmoins. Aujourd'hui, vous dites quoi ? La commande publique doit compenser cette situation ? Il faut tordre le bras à la SNCF, par exemple.
Je ne dis pas les choses en ces termes. Compenser, on ne peut pas imposer non plus... à la SNCF d'acheter n'importe quoi et des matériels qui ne lui conviennent pas. Mais on peut l'orienter, naturellement, et au moins se poser la question. Et puis, je sais bien que c'est extrêmement compliqué et que tous les grands contrats internationaux aboutissent à tout cela. Mais enfin, quand on négocie des contrats, comme on l'a fait par exemple avec les États-Unis, on voit bien que la quasi-totalité de la construction des nouvelles rames se passera aux États-Unis. Donc là aussi, il y a sans doute des rapports de force différents à développer.
Alors, Jean-Pierre Chevènement, toujours sur RTL d'ailleurs, hier, a déclaré qu'il fallait nationaliser. On a nationalisé Renault pour moins que cela à la Libération.
Ouais, ben on peut toujours ressasser le passé.
Recette du siècle dernier, mais pourquoi pas ?
Ce qui est... Non, je pense qu'on sait bien que c'est pas la solution. On l'a fait en 81 et après il a fallu pendant des années ramer pour revenir à ce qu'est la réalité de l'économie mondiale aujourd'hui. On ne va pas démondialiser, comme certains le proposent, l'économie mondiale.
Nationalisation provisoire, par exemple,
non,
ne serait-ce que ça, c'est non.
Je ne suis pas favorable à la nationalisation. Je pense que c'est l'entreprise et l'économie de marché qui peuvent demain nous permettre de renouer avec la croissance, pas l'étatisation de l'économie française.
Vous êtes tenté d'aller sur place à Belfort pour les voir, ces ouvriers, ces 400 salariés menacés aujourd'hui.
Si c'est utile et si les ouvriers pensent que le dialogue avec un homme politique peut être utile, naturellement je suis disponible. Mais je ne vais pas faire non plus du cinéma comme le font certains, en allant faire des effets de manche sur le terrain, sans qu'ensuite rien ne se passe.
Alain Juppé, quel sera votre slogan de campagne ? Est-ce que vous en avez un ?
Confiance. Confiance. La France doit reprendre confiance à elle-même. Aujourd'hui, nous sommes dans une société de défiance et c'est l'échec du quinquennat de François Hollande sur bien des plans d'avoir fait en sorte que les Français n'aient plus confiance dans ceux qui les gouvernent, qu'ils n'aient même plus confiance en eux-mêmes, qu'ils n'aient plus confiance dans les autres et plus confiance dans l'avenir. Donc je veux dire aux Français, on peut s'en sortir. Un leader politique...
Pour une France confiante. Ça pourrait être ça.
Un leader politique ne se contente pas de parler de la réalité telle qu'elle est. Il donne une perspective, il propose un projet et dans le dernier livre que je viens de publier,
de vous à moi.
Et gratuit, de vous à moi, non seulement je raconte un peu mon parcours politique, puisqu'il paraît que je suis peu connu ou pas assez connu.
Que mais vous en parlez même temps, peu de vous, vous le dites d'ailleurs, je n'ai pas parlé de moi.
Mais là j'en parle vraiment une fois.
Un petit peu.
Et d'ailleurs j'ai d'assez bons retours. Oui, mais les Français me connaissent bien aussi. Et puis j'essaye aussi de tracer des perspectives. Sur quoi fonder la confiance ? Et j'insiste sur 4 piliers notamment, enfin il y en a quelques autres, la famille. C'est là, c'est en famille qu'on se sent en confiance. Ensuite, l'endroit où on vit, le village, le quartier, la ville, l'école, ce qui est si fondamental pour nos enfants et pour nous-mêmes. Et puis enfin, le lieu de travail. Je voudrais que l'entreprise redevienne vraiment un lieu de dialogue social où on ne parle pas simplement de la quantité de travail, les 35 heures bien sûr, mais aussi de la qualité au travail et du bien-être au travail. Voilà ma vision de la France.
Une vision, effectivement, pour retrouver la fierté, ce sont les derniers mots de ce livre. Est-ce que vous êtes un prophète du bonheur ?
Je suis pas prophète d'abord, je n'ai pas cette prétention.
C'est l'expression de Nicolas Sarkozy hier soir.
Oui, mais je me méfie des prophètes de malheur. Je me méfie des prophètes de malheur. Ça, c'est très, très, très dangereux, les prophètes de malheur. On assiste à quoi aujourd'hui ? À une espèce de déclinisme. La France est condamnée au déclin, tout fout le camp, c'est la catastrophe, etc. Je refuse ce pessimisme.
La France va bien ?
La France va mal, bien sûr, je viens de vous le dire à l'instant, c'est l'échec du quinquennat. Mais qu'est-ce qu'on lui dit? Ça va aller plus mal demain? Enfin, c'est extraordinaire d'avoir une telle réaction. Bien sûr qu'aujourd'hui, nous avons de graves difficultés. Je cite toujours ces deux chiffres qui m'ont impressionné, 24 et 7. 24%, c'est le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans en France. 7, c'est en Allemagne. Monsieur l'Anglais vérifiera si je me trompe. Enfin, je pense que les chiffres sont vrais. Voilà le signe de la souffrance française. Mais je le répète, mon rôle de leader politique, c'est pas de dire d'enfoncer les Français sous la ligne de flottaison. C'est de leur dire la France a les moyens de rebondir. C'est un grand pays et ça peut redevenir une puissance d'influence mondiale. Voilà mon message.
Donc, et vous le revendiquez avec force. Identité heureuse va décider de ne pas du tout le mettre sous le tapis.
Au contraire, j'en parlerai ce soir longuement à Strasbourg.
Effectivement, c'est votre premier grand meeting. Et c'est finalement ce qu'on retient de votre campagne. Mais il semble tout de même, Alain Juppé, vous allez me dire si je me trompe, que vous avez un peu durci votre position, par exemple, sur les fichiers S. Vous êtes finalement d'accord pour les placer en centre de rétention fermé. C'est pas tout à fait ce qu'on avait compris au départ. On avait peut-être mal compris.
Je l'ai absolument dit la même chose parce que vous n'avez pas mis le doigt sur la vraie différence. La vraie différence, c'est ma conception de l'état de droit sur laquelle je ne franchirai pas la ligne rouge, c'est que c'est le juge judiciaire qui est protecteur des libertés publiques. Je prends et individuelles.
Donc en fait, Nicolas Sarkozy qui dit maintenant la même chose que vous, et pas le contraire.
Pas tout à fait, parce que je ne sais pas très bien ce qu'il dit. Hein. Il invoque le principe de précaution à propos du terrorisme.
À propos du terrorisme,
ce qui me semble à peu près assez décalé par rapport à la réalité. Bon, mais peu importe. Moi, ce que je dis, c'est que c'est la ligne rouge. Alors, on m'a opposé les internements psychiatriques, par exemple. Mais c'est très révélateur. Dans un internement psychiatrique, quelqu'un est passé en hôpital par décision administrative. Dans les 15 jours, le juge doit se prononcer. Donc voilà sur la ligne sur laquelle je suis. Et c'est ma conception de l'état de droit. L'état de droit n'interdit pas des mesures exceptionnelles. On en prend aujourd'hui. Le préfet peut mettre des personnes suspectées de les liens avec le terrorisme en détention provisoire, mais il faut qu'à un moment, l'article de la Constitution qui fait du juge le garant des libertés individuelles soit respecté.
Donc, encore une fois, là-dessus. C'est lui, dites-vous, qui a bougé. C'est lui qui est venu sur votre terrain en ajoutant l'autorité judiciaire a posteriori pourra effectivement établir de la pertinence.
Si nous le retrouvons, je m'en réjouis. Il y a belle lurette que je dis pas de Guantanamo à la française. Guantanamo, c'est quoi? On met les gens en prison sans décision de justice et pour une durée indéterminée. Ça, je n'en veux pas en France. Et je me réjouis que Nicolas Sarkozy n'en veuille pas non plus.
Nicolas Sarkozy qui a quand même installé des débats autour de plusieurs mesures. Est-ce que ça n'est pas une de ses forces dans cette campagne?
Non, je ne pense pas, parce que moi aussi je crée des débats et je fais des propositions. Je sais bien qu'on oublie vite les propositions qui sont faites, on oublie vite les livres qui sont proposés. Je vous rappelle que c'est en janvier que j'ai affiché mes propositions pour reprendre le contrôle des flux migratoires. Hein, je propose par exemple qu'en termes de regroupement familial, on ne l'interdise pas totalement.
Pas de suspension, comme
dit Nicolas
Sarkozy.
On ne l'interdise pas totalement, parce qu'il y a des cas où ce serait tout à fait inhumain.
Vous avez même dit que c'était inhumain.
De priver quelqu'un de faire venir sa famille. Mais je dis, quand on fait venir sa famille, il faut justifier du revenu du travail, d'un travail. Il faut connaître un travail et pas des indemnités de chômage. Voilà une façon de mieux cadrer.
Il y a déjà des conditions, dont celle-là.
Non, je regrette infiniment. Aujourd'hui.
Un logement, aujourd'hui, un niveau de salaire.
Mais aujourd'hui, on peut faire venir sa famille, même si on n'a pas le revenu d'un travail, avec des revenus d'assurance, comme l'indemnisation du chômage. Donc je propose de durcir les choses. De même sur le droit du sol, j'ai proposé depuis longtemps qu'on exige qu'au moins un des deux parents au moment de la naissance soit en situation régulière. J'ai proposé ça à Mayotte, pour prendre un exemple, où on sait bien que la maternité de Mayotte est la première maternité de France. Eh bien, il faut que les femmes qui arrivent à Mayotte et qui sont en situation irrégulière ne puissent pas donner la nationalité française à leur enfant. Vous voyez que sur tous ces sujets, j'ai aussi des propositions et un cadrage très précis qui respecte les principes fondamentaux de l'état de droit.
Mais c'est vrai aussi que malgré le fait où, enfin, vous êtes toujours en tête dans les sondages, disons plutôt, mais vous restez en tête dans les sondages.
Et ça gêne beaucoup, mais certains de mes adversaires.
Attendez, laissez-moi faire ma question. Ils sont néanmoins en baisse. Comment vous expliquez ça?
D'abord, je ne me lève pas tous les matins en regardant les sondages et je constate que je suis en tête.
D'ailleurs, dans votre livre, vous expliquez longuement pourquoi il ne faut pas.
Et que je suis en tête, point. Il est tout à fait normal que les choses se resserrent, bien entendu, au fur et à mesure que la campagne se déroule. Et je suis tout à fait lucide. On peut citer des tas d'exemples où les sondages se sont trompés. Mais enfin, il paraît que je devais être balayé l'année dernière, que je devais être balayé au mois de septembre. Je suis toujours là, vous voyez, je suis heureux d'être devant vous.
Certains vous disent, pour finir sur ce sujet, que vous vous trompez de campagne et que vous parlez davantage aux Français plutôt qu'aux électeurs qui vont voter à la primaire.
Oui, je parle aux Français. Moi, je refuse une attitude politique qui consisterait à raconter des balivernes pour gagner le premier tour et puis à changer de discours après le premier tour, non. Moi, je serai constant dans mon discours.
Le malaise d'Hillary Clinton a marqué la campagne électorale américaine, Alain Juppé. Est-ce que ce problème de santé peut constituer un tournant pour elle ?
On verra, j'observe comme vous tous la campagne américaine, bien entendu, c'est pour elle un point de faiblesse. Voilà, je suis aussi assez, sans me mêler de ce que décideront les Américains, terrifié par le discours de protectionnisme, d'anti-européanisme, d'anti-France même, que tient le candidat que combat Hillary Clinton. Donc vous voyez où vont mes sympathies.
La santé des présidents en France, ça reste un tabou à travers les âges, si je puis dire. Ça pose la question de la transparence. Si vous êtes élu, que vous engagez-vous à publier, sachant qu'aucun président n'a jamais tenu sa promesse. Aucun.
Si, François Mitterrand l'avait fait, mais il avait publié de faux bilans médicaux.
Oui, en termes de publication, donc, oui, voilà, si vous voulez, ça ne console
donc,
pas.
Il faut s'engager à le faire, à ce qu'il soit vrai. Bon, ce que je peux vous dire, c'est que si j'avais des doutes sur ma capacité de santé à assumer ma tâche, je m'arrêterais tout de suite.
Est-ce que vous êtes prêt à affronter, vous, des questions sur votre âge, 71 ans, sur votre santé? Vous y êtes préparé tranquillement?
Bah oui, de toute façon, qu'est-ce que je voulais répondre? Oui. Oui, j'ai 71 ans. Je vous fais remarquer que M. Trump, qui attaque beaucoup Mme Clinton sur ce terrain-là, a 2 ans de plus qu'elle et pratiquement mon âge.
Merci beaucoup Alain Juppé. Dans un instant, ou plutôt à 8h20, vous avez rendez-vous avec les auditeurs d'RTL.
On ne va pas démondialiser l'économie mondiale, nous dit Alain Juppé en évoquant le dossier Alstom. Et il confirme qu'il n'est pas favorable à un Guantanamo à la française. On vous retrouve donc dès 8h20 avec nos auditeurs Alain Juppé. Je vais vous laisser prendre un café avec toute l'équipe